feedback. Feedback. J'aime beaucoup les pommes, mais finalement j'en veux pas.
Pourquoi faire ?
Pour faire avancer la science. La science.
Les médias dans les rues à l'appel de tous les syndicats.
Bonsoir, bienvenue dans Feedback, l'émission qui revient sur l'actu un jeudi sur deux sur Silab. Je suis Simon et je suis accompagné ce soir et comme toujours par Diane, Juliette et Clément. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Salut.
Feedback n'a jamais aussi bien porté son nom puisque comme il y a deux semaines et avant de repartir en mars sur un sujet plus classique avec des invités, on revient ce soir sur des actus dont on a déjà parlé la saison dernière. Qu'est-ce qui a changé et quelles nouvelles questions posent ces sujets ? Ce soir, on revient sur le système de santé en France et on parlera particulièrement de la fin programmée des remboursements de soins pour les affections de longue durée. Ensuite, on reviendra sur l'arrivée du populisme en Italie. On en avait parlé l'année dernière avec les élections italiennes et aujourd'hui, la France est entrée en crise diplomatique avec l'Italie. On verra pourquoi et vers quoi cette situation va s'orienter. Et on finira par les actus qui vous ont marqué, et surtout celles qui, selon vous, vont faire les gros titres dans les prochaines semaines. On verra ça dans notre point de vue étudiant et enseignant. Ce sera en fin d'émission. Vous êtes sur Silab, installez-vous tranquillement, tout va bien se passer, puisque c'est Feedback jusqu'à 20h.
Feedback.
Et le premier sujet, c'est Juliette qui va nous en parler, c'est le retour, on a parlé l'année dernière de la prévention en matière de santé. Là, Juliette va nous parler des maladies professionnelles, et donc professionnelles ou non d'ailleurs, et des coûts des soins qui sont liés à ces maladies.
Oui, en effet, on le sait tous, être malade, ça a un coût. Et faire reconnaître sa maladie, c'est aussi s'assurer un plus important remboursement. Alors, on pourrait croire que faire reconnaître sa maladie en affection de longue durée, donc en ALD, nous permettrait de ne plus s'inquiéter de l'enjeu financier de la maladie. Eh bien, non. Le 4 février 2019, Christelle Bam, atteinte d'un cancer, a alerté sur le coût annexe de la maladie, et notamment sur celui du coût de son cancer. Alors, elle est actuellement en rémission, et elle s'est lancée un nouveau combat, faire connaître le réel coût d'une maladie. Elle a donc décidé d'alerter via les médias sur sa situation. Elle a calculé le coût de ses médicaments et elle explique que notamment certains produits ne sont pas remboursés. Comme par exemple un pot contre les brûlures qui est à 18 euros, un pot contre les ongles cassants à 5,20 euros, un soutien-gorge spécifique à 56 euros et toutes les frais comme l'euro symbolique qui s'associent à chaque fois qu'elle va voir le médecin. Donc en soi, ce n'est pas des gros coûts, mais additionner les uns aux autres, c'est des coûts qui sont vraiment importants sur son salaire. Donc est-ce que déjà vous en avez entendu parler de ces phénomènes ?
Bah oui, un petit
oui,
peu.
Oui, oui.
Enfin, c'est vrai que je ne pensais pas que ça touchait autant de gens que ça.
L'alerte de Madame Bam, elle s'ajoute à une autre actualité, de décembre 2018 cette fois, où le ministère de la Santé annonçait une augmentation des remboursements, notamment liés aux perruques lors d'un cancer et par rapport à la chimiothérapie, qui passait de 125 euros à 350 euros à partir d'avril 2019. Donc on voit que le coût des maladies et notamment le coût des soins annexes préoccupe le ministère de la Santé. Puisque là, Madame Bam a fait son calcul et elle explique que lors d'un cancer, 15% de son salaire, de son SMIC, était utilisé pour les frais de santé. Donc soit 260 euros par mois, tous les mois à cause de ça. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une égalité par rapport à la santé. Donc entre ceux qui peuvent avoir accès à ces soins par rapport aux effets secondaires et ceux qui n'y ont pas accès. Donc je trouve qu'on voit vraiment la différence entre ce qui vraiment représente la santé, donc les frais par rapport médicaux, par rapport aux symptômes directs, et à côté, l'estime de soi qui est vraiment atteinte par rapport à un certain niveau de vie. Non, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ben moi, avant de parler de l'estime de soi, tu as parlé de 15% du salaire qui partait dans ses soins et dans les frais. Et tu as parlé d'un SMIC. Et c'est vrai que c'est ce qui m'est venu en tête quand tu as parlé de ça. C'est déjà les gens qui sont malades et qui ont des affections de longue durée, des cancers, etc. C'est des gens qui ne trouvent pas forcément des emplois à long terme, qui ont des emplois parfois précaires avec des horaires aménagés. Donc, on a déjà des revenus assez élevés. Donc, leur demander de payer encore plus les soins ou les frais liés à ces soins, c'est un peu...
Alors, normalement, quand une personne tombe malade et qu'elle travaillait avant, si elle travaille encore après avec un poste aménagé, la MDPH est censée compenser cette différence de salaire.
Moi, c'est par rapport justement à des produits que tu as abordé, Juliette, comme un pot pour règles, pour un, comment dire, un produit pour les ongles cassants, des perruques, des soutiens-gorge spécifiques, etc. Il ne s'agit pas de choses effectivement qui vont jouer sur son pronostic vital, mais par contre, il s'agit de choses qui ont un impact sur la santé mentale. Et je pense aussi que le fait que ce soit pas remboursé vraiment à hauteur de ce que les personnes atteintes de ces maladies-là espéreraient, ça démontre aussi, voilà, on délaisse un petit peu l'impact sur la santé mentale de ces maladies et on le rembourserait pas autant qu'il le faudrait. Et pourtant, c'est quelque chose aussi qui devrait être important, parce qu'être touché, de, par exemple, de cancer, comme c'est le cas de la personne dont tu es en train de parler, oui, ça a un impact sur le physique, mais énormément sur le mental.
Oui, parce que c'est des personnes déjà fragilisées, en fait.
Exactement.
Ça fait aussi écho à la manière dont on choisit de rembourser certains médicaments. Donc c'est le ministère de la Santé qui est chargé d'élaborer une liste de médicaments qu'il rembourse et la manière dont ils sont remboursés. Donc ça passe de 100% à 15% à pas du tout en fait. Et normalement en ALD on est censé être remboursé de tout, sauf que certains éléments ne sont pas dans cette liste-là. Et ces éléments-là, comment les faire entrer sur cette liste-là et à partir de quel moment on estime qu'ils sont remboursables ou non et qu'ils font vraiment partie de la maladie?
Mais quels éléments?
Bah, comme le soutien-gorge, comme les peaux contre les brûlures.
Oui, des choses qui sont, comme tu disais, annexes, périphériques et qui ne sont pas considérées comme des soins ou des nécessités, mais qui sont quand même des nécessités en fait.
Tout à fait.
Complètement. Tu as par exemple certains critères par le ministère de la Santé qui sont par exemple la gravité de la maladie par rapport à ce qui est, par rapport aux médicaments qui sont utilisés, le besoin, l'impact sur la qualité de vie, la manière dont est proposé le soin, la morbidité, etc. Tu as plein de critères. Et certains médicaments ou certains aspects ne sont pas considérés comme entrant dans la maladie.
Alors moi, c'est un parallèle que j'ai à faire, mais c'est pas sur des affections de longue durée. Mais par exemple, pour les personnes les femmes qui subissent des opérations contre l'obésité, genre sleeve, bypass, etc. Donc il y a la sécurité sociale prend en charge les chirurgies réparatrices. Donc, c'est-à-dire les bras, l'intérieur des cuisses, ce qu'on appelle le tablier, donc la peau du ventre qui est en surplus. Voilà, en fait, pratiquement toutes les zones, sauf la poitrine. Et ce qui pose énormément de problèmes aux femmes qui ont perdu beaucoup de poids et donc qui ont beaucoup de peau au niveau de la poitrine. Et donc, il y a eu des pétitions en ligne, etc. par rapport à ça. Mais justement, quand on va sur le site de la Sécurité sociale, ben ils expliquent, mais non, c'est pas une nécessité, alors que ça impacte quand même, ben justement, sur la santé mentale, et puis ben pour le confort aussi, quoi. Et je pense qu'il y a des choses, et puis là, c'est lié aux femmes aussi, enfin, les perruques, c'est vraiment des femmes qui portent ça, les perruques, le soin des ongles aussi, c'est quelque chose, enfin, voilà, sans vouloir essentialiser non plus les préoccupations des femmes, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi comme ça, où on pourrait... J'ai l'impression que c'est perçu comme des choses futiles, en fait. Et c'est ce qui me pose un peu problème dans tout ça.
Considéré comme futile, pas tellement, parce que là, justement, on l'a vu, la périque, le remboursement, il augmente parce que ça coûte très cher. Et ils estiment qu'il faut augmenter le remboursement et baisser le prix de certaines perruques. Dans le même temps, c'est prévu.
Ce que tu dis, Diane, en fait, je sais pas, c'est au conditionnel que je le dis, mais ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est pas considéré comme essentiel parce que ça touche des populations comme les femmes qui sont moins mises en avant, qu'au moins la parole sur ça.
Bah après, bon, j'ai commencé à faire la sociologie, je peux pas m'en empêcher, mais je pense que voilà, il s'agit quand même de marqueurs de féminité. Il s'agit de marqueurs de féminité et les cheveux, les ongles, la poitrine. Bon, là, la poitrine, on rentre dans autre chose parce que aussi c'est une intervention chirurgicale. Mais on est quand même sur des marqueurs de féminité dans notre société. Et donc, je ne pense pas que ce soit perçu comme quelque chose de primordial à régler. Et on se concentrera plus à dire oui, mais bon, voilà, on est en train de soigner ton cancer. Le reste, ça peut attendre. Alors que pour moi, c'est super important. Je pense que ça joue énormément sur la santé mentale. Des personnes malades.
Et puis ce qui est paradoxal, c'est que là tu parles de ces marqueurs de féminité, ce qui est paradoxal, c'est que ces marqueurs sont des conditions, certaines conditions, par exemple d'intégration à la société. Une femme, on la considère comme femme avec des cheveux, on la considère comme femme avec une poitrine, etc. Et donc, à la fois, on dit c'est pas important parce qu'on est en train de soigner ton cancer, et à la fois, on est en train de lui dire ce qui n'est pas important, en fait, bah, c'est important pour la société, mais pas pour les remboursements. Et donc, du coup, tu te retrouves en dehors, alors que c'est peut-être à ce moment-là où la personne a besoin de se retrouver le plus avec les gens.
Exactement.
Oui, et c'est aussi, je comprends ce que disait Diane par rapport aux effets psychologiques de la maladie, parce que c'est aussi des choses qui servent psychologiquement à renforcer le malade dans son combat contre la maladie des fois, et à accepter le fait que ça peut être une maladie de longue durée, donc un combat qui est quotidien et très long. Et j'invite les auditeurs à écouter une bonne émission qui existait il n'y a pas si longtemps sur Silab qui s'appelle Ma Santé D'Abord, où on recevait beaucoup de malades justement pour parler de leur propre parcours, de leur maladie. Il y a beaucoup qui parlaient justement de tout ce qui est périphérique à leur maladie, comme on parlait des vêtements, des choses comme ça, mais aussi du sport qui sert beaucoup psychologiquement à se dire je suis capable de faire ça et je suis capable d'avoir une vie normale, d'avoir une vie sociale, etc. Et qui les motive à combattre leur maladie. Mais c'est vraiment des choses qui sont encore une fois périphériques. Mais c'est essentiel quand on est malade, je pense.
Mais ça pose aussi la question de la manière dont on les rembourse. Qu'est-ce qu'on estime être important ou non ? C'est, dire le sport, c'est très bien, mais de quelle manière on rembourse ? Avoir des perruques des foulards, par exemple. Comment on les rembourse aussi ? Est-ce que le ministère de la Santé, dans son rôle d'apporter uniquement un univers médical, est-ce qu'il peut vraiment rembourser ? C'est une question complexe aussi. J'imagine qu'il n'y a pas de réponse simple aussi pour eux.
Mais ça veut dire que si on fait des choix, ça veut dire rembourser, ne pas rembourser d'autres frais pour d'autres personnes, en fait. C'est ça ? Parce que les ressources de l'État et la sécurité sociale ne sont pas illimitées.
Et ça en joue aussi la mission. Quelle est la mission du ministère de la Santé ? Si c'est une santé uniquement par rapport à la maladie ?
Ou physique,
ou morale ?
Oui, et je voulais aussi faire un parallèle aussi avec des populations, justement, qui se sentent parfois oubliés parce que ils n'ont pas forcément les moyens de dépenser tout ça par rapport à leur maladie de longue durée. Et je pense aux gilets jaunes. Certains gilets jaunes parce que, encore une fois, oui. Parce
on revient
que,
encore aux gilets
une
jaunes.
Fois, parce qu'en faisant les reportages qu'on fait depuis quelques semaines pour Silab et l'enquête, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient des cancers ou d'autres formes de maladies de longue durée ou même des maladies professionnelles et qui étaient obligé de se débrouiller par du système D ou de... Et en fait, c'est les choses qui ont motivé leur engagement dans le mouvement des gilets jaunes, même des gens qui n'étaient pas du tout militants avant, parce que, simplement, ils n'ont plus les moyens et pourtant, la santé, c'est quelque chose qu'ils considèrent comme étant du ressort de l'État, quoi.
Donc c'est une vraie question de société, puisque c'est là, par rapport à ce qu'on a dit il y a deux semaines, par rapport à la carte judiciaire où les gens ne se saisissaient pas de cette préoccupation, là, on voit qu'au contraire, c'est une préoccupation dont les gens se saisissent.
Exactement.
Il faut pas qu'on soit que deux, les enfants.
Mais là, je sais pas quoi dire, là.
Ouais, on a du temps, il faut parler.
Non, mais pas les gilets jaunes, mais t'as un sujet.
Bah oui, j'ai posé mes questions, après.
Le coût des maladies, donc j'ai eu des soins.
Mais pour le coup, Clément, tu dis que c'est un sujet dont les personnes s'accaparent, justement, mais c'est les personnes qui sont concernées, parce que les exemples qu'a donné Juliette d'associations, c'est des associations de malades, je pense.
Ah, complètement.
De malades. Donc c'est quelque chose qui peut être difficile à faire pénétrer chez d'autres catégories de population. Enfin, comment on fait comprendre à des gens qui ne sont pas malades ou qui ne connaissent pas des gens qui sont malades de maladies de longue durée qu'il faut... Qui existent toutes ces choses-là périphériques et qui sont nécessaires pour les malades.
Moi, j'ai l'impression qu'on se sent quand même plus ou moins concerné et touché lorsqu'il s'agit de maladies, parce qu'on se sent quand même... On se sent pas tous invincibles. Je pense qu'on a quand même tous conscience que malheureusement, il peut nous arriver de tomber malade. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est important de le savoir et je pense que les gens le savent. Et je pense que ça mobilise quand même plus les gens. Et puis de toute façon, il y a quelque chose aussi du ressort de l'empathie face à la souffrance d'autrui.
Oui, et puis les mobilisations, elles se font aussi grâce aux réseaux sociaux, on en parlait. Il y a beaucoup de mobilisations, par exemple des pétitions signées, des associations qui créent des magazines, qui créent qui portent le sujet sur la place publique et on est nombreux à les suivre en général. Alors on va pouvoir écouter la chanson de Rihanna, Bitch Better Have My Money.
Yeah.
Vous écoutez Feedback sur CLAB 88.4 ou sur c-lab.fr.
Et on va repartir sur le deuxième sujet de cette émission. Le 4 mars dernier, les Italiens se rendaient aux urnes pour élire leurs députés et leurs sénateurs. L'Italie était en crise politique depuis 15 mois. En fait, depuis le référendum de 2016 proposé par le président du Conseil de l'époque, Matteo Renzi, le référendum proposait aux Italiens de se prononcer en faveur ou non d'une réforme constitutionnelle. Il s'agissait de la plus importante révision constitutionnelle proposée en Italie depuis le début de la République.
Alors, il nous parlait d'un référendum de révision de la constitution italienne. Et donc, qu'est-ce que ça avait donné, Simon ?
Le résultat est sans appel. Près de 60% des Italiens se sont prononcés contre la réforme. Renzi, le président du Conseil, démissionne 3 jours plus tard et un nouveau gouvernement est formé en urgence, dirigé par Paolo Genti, un fidèle de Matteo Renzi. Ce gouvernement, qui pour beaucoup ne devait être que provisoire en attendant les élections anticipées, a finalement duré 15 mois à la tête de l'Italie et même un petit peu plus, parce que les élections générales de mars dernier n'ont pas permis l'émergence d'une majorité, empêchant ainsi la constitution d'un nouveau gouvernement stable. C'est pourquoi depuis plus de 2 mois, le gouvernement Gentiloni assure une sorte de régence et prolonge exceptionnellement sa mission en attendant qu'un nouveau gouvernement soit formé. Le parti présenté comme vainqueur des élections, même si ses résultats sont fragiles, est le mouvement 5 étoiles, Cinque Stelle en italien, un parti ovni regroupant des forces de la gauche comme du centre et de l'extrême droite, des progressistes comme des populistes, des libéraux comme des néo-fascistes et surtout des eurosceptiques. Un grand melting pot politique donc, qui loin de séduire tous les Italiens, s'est tout de même retrouvé comme étant la dernière option, celle qui n'avait pas encore été essayée.
Donc nous l'avons compris depuis un an, le gouvernement venu du mouvement 5 étoiles, donc en italien ça donne quoi, Simon, déjà ?
Movimento 5 Stelle.
Merci,
j'ai
Simon.
J'ai super mal dit.
Donc dirigé par Conte, mais non, on s'en fiche, tu sais, on ne verra pas la différence. Hein. Donc il est en place depuis un an. Donc c'est un gouvernement qui se veut anti-Europe, avec des petites, mais alors des toutes petites idées d'extrême droite. Bon, évidemment, c'est un euphémisme. On le sait aujourd'hui, il y a une certaine tension entre la France et l'Italie suite à la rencontre entre Luigi Di Maio, vice-président du Conseil italien, et certains gilets jaunes en France. En effet, il y a quelques jours, la France rappelle son ambassadeur, maintenant quelques semaines, puisque ça fait quand même quelques semaines, il rappelle son ambassadeur à Rome, ce qui est, rappelons-le, c'est là la dernière étape avant les ruptures du lien diplomatique. C'est là la dernière rupture entre... C'est là la dernière étape avant la rupture des liens diplomatiques entre les deux pays. Alors, qu'est-ce qui a pu gêner dans cette rencontre, mis à part la prise de position de Luigi Di Maio contre Macron et pour les Gilets jaunes ? Eh bien, selon certains médias, il y a des similitudes entre le mouvement extrémiste 5 étoiles et les Gilets jaunes. En effet, RT France, média dont les informations sont à prendre avec beaucoup, mais alors énormément de pincettes, nous dit que les deux sont en vrac, anti-élite, anti-austérité, anti-système, pour une démocratie directe, et utilisent Internet comme moyen de communication. Alors oui, apparemment, utiliser Internet comme moyen de communication fait de toi un extrémiste. Donc selon RT France, nous sommes tous extrémistes, snapchatteurs, instagrammeurs et facebookiens que nous sommes.
Je dis, du coup, c'est Diane la plus extrémiste. Ah.
C'est ça.
Il m'a regardé, franchement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il insinue ?
Non, allez, sérieusement, il y a donc eu cette rencontre alors que Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, nous disait sur Europe 1, autre média très objectif et neutre, que Luigi Di Maio n'avait pas déclaré sa venue en France et que c'est là le vrai problème. Il nous dit aussi que depuis plusieurs mois, le gouvernement italien attaque le gouvernement français en utilisant, je cite, des petites phrases. Alors que nous savons tous que jamais, au grand jamais, le gouvernement français n'attaque avec des petites phrases, n'est-ce pas, bande de bretons analphabètes, comme dirait un président d'une république commençant par Ma et finissant par Cron. C'est donc tout naturellement que Benjamin Griveaux nous assure que cette guéguerre entre Italie et France n'est pas une affaire personnelle. Il est cependant troublant de voir la temporalité de ce petit accrochage. En effet, au moment où les élections européennes arrivent et où Macron, comme Conte d'ailleurs, veulent revendiquer leur idéologie de l'Europe. Alors cette crise, c'est un vrai problème politique selon vous, ou alors une petite guerre d'ego ?
D'abord, je pense qu'en tant que breton, on peut dire qu'on peut défendre les Italiens, puisque on est deux peuples à pratiquer la mafia de manière intensive. Par une petite phrase.
Autre petite phrase.
moi, je pense qu'il y a une petite, il y a des différents politiques, mais je pense aussi que c'est une superposition de plusieurs petits éléments. Bon, moi, actuellement, je suis en rapport avec, je travaille avec auprès des populations migrantes, et donc j'ai affaire à beaucoup de personnes qui normalement sont censées effectuer leur demande d'asile en Italie. Et effectivement, quand on regarde en France, finalement...
Il faut rappeler pourquoi, peut-être, c'est à cause de la procédure de Dublin.
Et voilà, exactement, la loi Dublin, donc, c'est, qui stipule en fait que le premier pays d'arrivée d'un migrant, en fait, c'est le premier pays dans lequel il doit enregistrer ses empreintes, et c'est donc dans ce pays qu'il doit effectuer sa demande d'asile. Étant donné que, comme on a pu le constater dans les divers faits d'actualité, la France a accepté très peu de bateaux de migrants. Et l'Italie s'est retrouvée avec beaucoup de bateaux de migrants et donc avec la responsabilité de beaucoup de demandeurs d'asile. Je pense que ça aussi, ça joue sur la balance.
Je suis d'accord avec toi, Diane. Il n'y a pas que la rencontre entre Luigi Di Maio et les gilets jaunes, certains gilets jaunes en France qui est à l'origine de ce contentieux entre la France et l'Italie. C'est quand même parti à la base de déclaration de Luigi Di Maio et de Matteo Salvini, les deux vice-présidents du Conseil italien, sur la politique migratoire de la France, en particulier d'Emmanuel Macron, et sur la France-Afrique. Et effectivement, alors, on peut les critiquer sur eux-mêmes, leur politique migratoire. Effectivement, ce sont des personnes d'extrême droite, mais ce qu'ils reprochent à Emmanuel Macron, et Clément, tu l'as très bien dit, dans une période pré-élection européenne, c'est d'être une des figures, peut-être avec Angela Merkel actuellement, de l'Europe, de l'Union européenne. Et effectivement, ce sont des europhobes. Et la procédure de Dublin, justement, les principes des politiques migratoires en France résultent des politiques migratoires européennes, de l'Union européenne. Et en tant qu'europhobe, Luigi Di Maio et Matteo Salvini ont lié les deux, la question migratoire et la question de l'Union européenne, pour moi.
Et puis, je pense, on peut se mettre aussi un petit peu à la place de l'Italie, il n'a pas besoin nécessairement d'être europhobe pour quand même... au bout d'un moment, il y a quand même trois pays sur la Méditerranée, en Europe, Espagne,
un
France.
Un peu plus peut-être.
Oui, non, mais les trois pays qui sont quand même au niveau du Maghreb, tu vois. Enfin, c'est.
Je pense qu'il faut pas oublier la Grèce aussi. Quand même,
la Grèce aussi, qui accueille quand même pas mal de personnes, quoi. Mais enfin, je veux dire, la France accepte peu de personnes aussi. Donc, au bout d'un moment, quand l'Italie se retrouve avec tout le temps tout le monde à gérer, ça, c'est quand même un petit peu fatigant. Sachant que les personnes qui arrivent en plus en Italie, il y a un bon nombre qui ne veulent pas rester en Italie et qui viennent en France. Et qui après sont renvoyés en Italie, etc. Donc c'est problématique, quoi, finalement. C'est un petit peu leur poser un problème qui finalement ne les concerne pas nécessairement, parce que ces personnes-là, beaucoup de migrants ne veulent pas nécessairement rester en Italie, quoi. Donc,
Alors oui, le problème de la migration, c'est une chose. Mais là, il ne faut pas oublier quand même que ce qui aurait déclenché ça, ce serait la venue du vice-président du Conseil en France sans que ce soit déclaré. Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ça, à votre avis ?
Bah, pour moi, c'est avant tout une guerre d'ego. Oui, entre deux personnes, Matteo Salvini trois personnes, Matteo Salvini, Luigi Di Maio d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre. C'est trois personnes avec un très fort ego, un très fort caractère. Je pense que tous les trois sont égomaniaques. Et oui, pour moi, c'est pas une guerre entre, enfin, un conflit diplomatique entre deux pays. Là, c'est un conflit entre des personnes. Il y en a un qui a lancé un pic, l'autre n'a pas apprécié, donc il a répondu avec aussi un scud, et l'autre a re-répondu. Et ça s'est vraiment passé comme ça, des échanges verbaux, presque par Twitter des fois. Et donc, c'est pas un conflit diplomatique entre deux pays, mais entre des personnes. Et c'est dangereux, du coup.
Ouais, on a l'impression qu'en fait, il y a sous couvert de problèmes migratoires, de problèmes en lien avec l'Europe, il y a en fait une vraie guerre d'ego entre eux. C'est comme si ils étaient dans un bar et ils disputaient, sauf que dans le bar en question, ils ont la France et l'Italie sous leur responsabilité, quoi.
Mais leur guerre d'ego, elle va quand même très loin. Enfin, les ruptures diplomatiques, c'est impressionnant.
Alors, on n'est pas aux ruptures diplomatiques.
Non, mais ils sont quand même. On est sur la ligne.
Pas au moment de registre, on est le 15 février.
Non, mais il y a quand même sur la ligne. On fait revenir un diplomate. C'est quand même impressionnant d'aller sur une rupture d'ego et de vouloir. Enfin, c'est quand même impressionnant d'aller jusque là entre deux personnes qui sont censées diriger un pays.
Ça... L'un des principaux problèmes, c'est pour les expatriés en Italie, parce qu'actuellement, Bon, les services de l'ambassade et des deux consulats fonctionnent quand même, mais s'il y a rupture des liens diplomatiques et que l'ambassade est fermée un jour, effectivement, les expatriés peuvent ne plus avoir de service chez eux ou être, ou on peut demander aux expatriés en Italie de revenir en France.
Et puis, on en parle quand même qu'on est censé être dans l'Union européenne. Donc, comment ça se passerait s'il y avait une rupture de liens diplomatiques entre deux pays fondateurs, de l'Union européenne ?
C'est jamais arrivé, donc on ne le sait pas.
J'ai une petite nuance. Des expatriés ou des immigrés ?
Alors oui, mais les expatriés ont accès aux services de l'ambassade, c'est pour ça que je disais ça.
Mais les immigrés aussi, les immigrés français en Italie aussi.
Et les expatriés ?
Oui, je fais une nuance sur le terme employé en fait.
Pourquoi ?
Parce que dans la même émission, on parle de migrants et d'expatriés.
Ah, il y en a un qui, voilà. Qui est reconnu formel.
Je trouvais ça assez amusant de souligner ça. Et puis aussi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait, qui m'a beaucoup amusé personnellement, c'est la réaction des médias français et des politiques français, mais surtout des médias français quant à la sortie de je ne sais plus quelle personnalité politique italienne qui justement remettait en cause la politique france-africaine.
Ouais, Luigi Di Maio, Matteo Salvini.
Et voilà, exactement.
Forcément un des deux.
Voilà, forcément un des deux. Ouais. Et là, j'ai vu sur mes réseaux sociaux, comme je suis très réseaux sociaux, je dois être un
très extrémiste, donc.
Voilà, très extrémiste, donc. Et donc, j'ai vu beaucoup d'articles. Oui, l'Italie se permet de critiquer les relations france-africaines.
Oui, enfin, la France, par le biais d'Emmanuel Macron et par le biais aussi du ministre...
Benjamin Griveaux, c'est pas un ministre, non. C'est porte-parole du gouvernement.
Le Drian.
Ah, d'accord.
Avec Le Drian, on s'est permis aussi la France de critiquer la politique italienne et pour le coup pas la politique étrangère, mais la politique interne. Pour moi, c'est pire. Enfin.
Exactement. Et il y a ce truc-là, voilà, on n'accepte pas la critique, on peut pas nous critiquer, on peut pas nous dire que ce qu'on fait avec les autres pays, c'est pas bien, quoi. Mais en fait, si c'est pas bien. D'autres pays aussi ont le droit de le dire et je pense que la France n'est pas le dernier pays à s'exprimer sur les politiques qui sont appliquées dans d'autres pays et des pays aussi africains d'ailleurs en l'occurrence, donc il y a de l'ego encore ici je trouve.
Oui absolument, et pour revenir sur la question de Clément, c'est-à-dire comment ça se passe au sein de l'Union Européenne, la difficulté c'est concrètement lors d'assemblées, lors de conseils, de réunions, il peut y avoir conflit, il peut y avoir des accords et du coup des choses qui ne mènent sur aucune mesure. Et du coup, figer certaines institutions européennes. Et ça s'est passé dans une certaine mesure quand le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. Ça a ralenti pas mal de procédures. Là, peut-être que ça peut le faire. Et surtout si l'Italie bloque non seulement des propositions venant de la France ou de commissaires français, de l'Allemagne, parce que c'est aussi le centre de l'Union européenne, ou de l'Autriche, parce que la question migratoire avec l'Italie se joue aussi beaucoup avec la frontière autrichienne. Donc là, concrètement, c'est le centre de l'Union européenne qui peut être bloqué.
Et donc, quid de cette question gilet jaune je pense que Simon, oui.
Ben, je repars.
Simon ne s'arrête plus.
Non, oui, les gilets jaunes, le problème aussi, je pense qu'on parlait d'une guerre d'ego et peut-être de l'ego d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est confronté aujourd'hui en France à un gros mouvement social qui est donc le mouvement des gilets jaunes.
C'est pour ceux qui ne sauraient pas.
Mais le truc, c'est que lui, il est confronté à ça. En Italie, il y a des gilets jaunes, beaucoup moins qu'en France, il faut le dire, mais il y a des gilets jaunes qui sont pro-gouvernement parce que ce sont des europhobes, ce sont des gens beaucoup de gens qui ont voté pour le mouvement 5 étoiles ou la Ligue du Nord, parce qu'il y a aussi la Ligue du Nord dans l'Alliance, et qui est beaucoup plus à l'extrême droite que le mouvement 5 étoiles, il faut le dire. Donc ce sont des pro-gouvernements, des europhobes, là où en France, les gilets jaunes ne sont pas tous europhobes ou d'extrême droite, peut-être certains, mais pas tous, et surtout, ils sont contre le gouvernement. Donc il y a cette dichotomie-là entre les deux formes, les deux mouvements de gilets jaunes, et pour moi, il y en a un qui s'en sert en Italie, et l'autre qui est confronté en France. Voilà, bon, désolé.
Mais c'était une bonne...
Et donc, il y a eu aussi, on peut aussi parler par exemple du traitement médiatique, de cette rencontre entre certains gilets jaunes et Luigi Di Maio, puisque certains médias ont annoncé que c'était ceux qui ont rencontré Luigi Di Maio, c'était des personnes faisant partie de la liste de Madame Levavasseur qui se présente aux élections européennes.
Alors il y a un gros flou là-dessus.
Qui, elle, je l'ai encore entendu dernièrement, dit que ce n'est pas le cas, qu'elle était contre cette réunion, et donc du coup, que ça ne la concerne absolument pas.
Elle n'était pas là, elle a peut-être même quasiment pas été mise au courant. Et c'est vrai que les gens qui étaient là, les gilets jaunes qui étaient là, se disent porte-parole, mais sur le terrain, il y a beaucoup de gilets jaunes qui les traitent de traîtres, qui ne les considèrent pas comme des porte-parole. Et puis on a vu dans les émissions spéciales sur les gilets jaunes qu'on a fait, les leaders ou les porte-parole, il ne faut pas du tout en parler. Ils ne doivent pas exister chez les gilets jaunes. Et du coup, ces gens-là, oui, jouent un jeu dangereux et ils vont peut-être porter eux-mêmes une deuxième liste gilets jaunes aux européennes avec un autre mouvement. Et du coup, créer une vraie structure, un mouvement, là où le mouvement des gilets jaunes, lui, était considéré à la base comme horizontal, mais surtout sans structure formelle, sans association, sans parti, etc.
Bah c'est pour ça que ça va être intéressant de suivre les élections en mai, parce qu'elles vont vraiment montrer le conflit qu'il y a en ce moment entre ceux qui souhaitent une Europe qui prenne un peu plus de décisions et d'autres qui veulent complètement en sortir, comme l'Angleterre ou l'Italie, l'Italie par rapport à son gouvernement. Et c'est intéressant de voir ce qui va en ressortir de ces élections-là et de se mobiliser par rapport à ça.
Oui, surtout voilà, par rapport au fait que beaucoup maintenant aujourd'hui de pays membres de l'Union européenne sont quand même... compte parmi eux beaucoup de personnes voilà, qui sont europhobes, pour reprendre le terme
eurosceptiques
au moins. Et je pense qu'effectivement, oui, les élections européennes vont être très, très intéressantes à voir. Mais moi, par rapport à l'Italie, justement, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est l'Europe, le rôle de l'Europe, l'importance que l'Europe peut avoir sur leur politique nationale. Étant donné, les personnes qui ont été élues ne sont pas pro-Europe non plus, quoi. Donc, dans un pays comme l'Italie, comment ça va se passer aussi, ça pourrait être intéressant.
Mais ce sera intéressant de voir.
J'ai une réponse très rapide, mais vraiment.
Ah bah, vas-y, réponds.
C'est en une phrase.
Je sais que t'as envie. Vas-y.
Réponds, notre italien.
C'est en une phrase. Je la fais en italien ?
Non, pas en italien.
Non, évidemment, les Italiens et le gouvernement italien est souverain dans son pays. L'Union européenne n'est pas une fédération, mais l'Union européenne a quand même des politiques contraignantes et surtout au niveau budgétaire. Mmh. Donc, ils vont pas pouvoir faire n'importe quoi, ce gouvernement en Italie. Faut se rassurer aussi. C'est pas parce qu'il y a des populistes ou des gens d'extrême droite au pouvoir en Italie que ça va être totalement le bazar en Europe.
Et on va pouvoir reposer nos esprits avec une chanson du groupe Folkstone avec Nella Mifossa.
Salirò!
Vous écoutez Feedback sur CLAB 88.4 ou sur c-lab.fr.
Et Simon va donc nous... Attends, je vais le refaire. Et donc, Simon va nous présenter notre dernier PV2E du mois.
Oui, et il y a deux semaines, on a vu dans notre micro-trottoir quelles actualités ont marqué les étudiants et les enseignants rennais. Ce soir, voyons ce qui va marquer l'actualité dans les prochaines semaines, selon eux.
Bah, y a déjà beaucoup, enfin, tout le bordel des gilets jaunes et tout, ça fait des actus pour au moins 5 ans. Hein. Je pense que s'il y a d'autres trucs qui sortent, ça va péter en tous les sens, c'est pas possible. Bah, je pense que ce dont on parle en ce moment, ça va continuer, genre les gilets jaunes, Benalla et tout. Je pense pas qu'il y ait d'autres trucs qui vont continuer à sortir, sinon ce serait un peu abusé. Même si la dérive autoritaire du gouvernement me fait un peu peur avec les perquisitions un peu basées sur rien.
Bah, les gilets jaunes, ça c'est sûr, ça va continuer encore un petit peu. Il va y avoir, j'imagine, les suites du grand débat, etc. Après, est-ce que ça va donner quelque chose? Je pense pas forcément. Ouais, malheureusement, je crois qu'on va rester vraiment bloqué là-dessus et que ça va pas forcément évoluer vers quelque chose de bien. Bien sûr, on va aussi entendre un peu parler de Benalla. Hein, on va creuser un petit peu plus, voir les liens avec les Russes, voir un peu comment ça se profile.
Dans le champ de la protection de l'enfance, un nouveau secrétariat national destiné à la mission. Donc on voit bien que ce secrétaire national est arrivé suite à un reportage un peu coup de poing qui a été diffusé sur une chaîne de la télévision publique. Ça s'est décidé en l'espace de 2 semaines, quoi. Donc des fois, l'actualité, on peut surtout pas la maîtriser, quoi.
Des actus sans grande surprise, donc gilets jaunes et Benalla. Mais nous avons aussi demandé aux étudiants et aux enseignants quels sujets ils voudraient voir être plus traités dans les médias ou qui devraient plus faire débat dans la société.
Bah, je trouve que pour une fois, les gens s'intéressent à un minimum, donc c'est déjà pas mal. Après, il y a plein de sujets. Donc, tout ce qui est l'écologie, ça me parle de ouf. Pour moi, c'est des trucs qui devraient nous mettre en état de guerre, limite, tu vois. On devrait avoir une organisation martiale pour lutter contre le réchauffement climatique, tu vois.
Sur l'environnement, moi, ça me touche un peu Je pense que ça touche un peu tout le monde, j'espère. Mais ouais, qu'on est en train de faire plein de trucs cool, qu'il y a des projets humanitaires, que je pense qu'il faudrait surtout agir, genre proposer des trucs.
Bah, la question des migrants et puis de leur mauvaise prise en charge, mais enfin, on peut pas dire qu'on en ait pas parlé, mais bon, on n'en parle jamais suffisamment. Et surtout, c'est pas pris en compte.
Après, moi, je suis plus les trucs genre sur l'éducation, les trucs comme ça. Enfin, les réformes qu'il y a eu au collège, qui étaient vraiment n'importe quoi. Et puis ensuite, la réforme du lycée, pareil, c'est part dans tous les sens. Personne n'est au courant de rien. Les profs savent même pas ce qu'il faut faire. Il n'y a aucune communication entre les rectorats, le ministère et les établissements. Du coup, c'est... Enfin, je trouve ça un peu dingue. Les élèves vont arriver au bac, ils savent même pas sur quoi ils vont être interrogés. Ils savent même pas... Quelles formes vont prendre les épreuves, les nouvelles épreuves, tout ça, c'est...
J'espère qu'il n'y aura pas trop de jeunes futurs étudiants qui vont subir les effets du Parcoursup, parce que je sais que c'est assez délicat comme concept, notamment aussi par rapport à la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. J'espère que ce genre de choses vont s'améliorer, parce que tout le monde devrait avoir droit à l'éducation et à l'enseignement.
Donc Parcoursup, l'environnement... C'est des sujets qui vont marquer l'actualité.
C'est des sujets qu'il faudrait qu'ils marquent l'actualité aussi.
Oui, c'est plutôt ça. C'est vrai qu'on a demandé aux étudiants et aux enseignants quels sujets, eux, les intéressaient, ce qu'ils voulaient voir plus traité dans les médias. Mais en fait, ils nous ont plus répondu sur des sujets qui devraient plus être traités dans la société en général, qui devraient plus faire débat, pas forcément dans les médias.
C'est vrai, ouais. Et puis.
Les migrants aussi, on nous a dit effectivement dans le micro-trottoir, dans le PV2E, que c'était traité par les médias, mais en fait, ça fait pas de débat.
Ou en tout cas, c'est pas assez montré pour que ça fasse débat.
Mais après, pour revenir sur les migrants, ça fait pas débat parce que. Bah, on se dit, ouais, ils sont là.
Mais c'est sur la protection des mineurs isolés, etc.
Oui, effectivement, ouais. Là, ça devrait faire plus débat. Effectivement.
Voilà!
Après.
Il y a la question aussi de l'environnement qui est importante, la manière dont elle est traitée. En fait, on voit en ce moment beaucoup de pétitions qui circulent, mais en même temps, dans les médias, on n'en entend pas tant que ça parler, alors que c'est quand même un mouvement extérieur sur les réseaux sociaux qui est important.
En fait, moi, j'ai l'impression qu'on en entend parler quand il y a des catastrophes ou des choses, mais pas forcément...
Ou quand Trump dit quelque chose.
Mais justement, c'est ce qui ça a été soulevé, ça, que justement, on entendrait beaucoup plus parler de l'environnement via les catastrophes, et pas uniquement par rapport à des projets pour améliorer la qualité de l'air, notamment, ou des projets sur l'environnement.
Après, ce serait intéressant, par exemple, je pense à Parcoursup, de voir s'il y a un nouveau mouvement social qui peut se relancer dans les mois qui viennent. À voir, est-ce que le nouveau mouvement social se lancera à cause d'une couverture médiatique du problème Parcoursup, ou si c'est le contraire, si le Parcoursup lancera enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux
dire. Oui, non, mais oui,
parce que c'est Diane qui voulait le dire, ça.
Oui, mais
vous pouvez d'ailleurs réécouter une émission sur ce sujet que nous avons traité dans Feedback en podcast.
Exactement, mais pour revenir en plus
sur les retours des mouvements sociaux.
Ah oui, sur les mouvements sociaux.
Je me demandais où ils étaient à ce moment-là.
Oui, avec nos super invités. Mais pour revenir d'ailleurs...
Ça, tu couperas.
Ouais. Bah oui, j'ai perdu le fil de ma pensée.
Non, mais c'est si rapide.
Oh là là, j'avais un truc...
Ça va falloir que tu réécoutes tout, hein, Simon.
Bah ouais, mon pauvre, j'avais un truc très intéressant à dire.
Bah là, on est même pas à 50 minutes, si vous voulez, alors de rush, hein. On a 40 minutes d'émission.
Oui, mais moi je suis en train de calculer avec le PV2E en plus. Donc là, en clair, on a encore une minute maxi avant de finir la réaction PV2E.
Ok, mais j'avais trop un truc intéressant. Ah oui, voilà, c'est bon.
Ouais. Attention, je relance. 3, clap.
Oui, donc pour revenir justement sur ce que tu disais, Clément, est-ce que ce ne sont pas les faits sociaux qui influencent les médias, ou alors est-ce que ce n'est pas la couverture médiatique qui a une influence sur les faits sociaux?
Bah, c'est exactement ce que j'ai voulu dire, mais en mieux dit.
Mais justement, par rapport à ça...
C'était aussi une toute première émission dans Feedback.
Oui, c'est aussi ce que vient de dire Juliette.
non, c'était pas la même chose. Juliette a parlé des mouvements sociaux...
J'ai encore perdu le fil de ma pensée.
Ah bah pardon.
Et donc? Donc, les mouvements sociaux qui influencent les médias, ou les médias qui influencent les mouvements sociaux? Voilà.
Je pense que ça dépend du sujet, finalement. Quant aux migrants, il se passe des choses. Après, c'est pas très couvert par les médias. Et du coup, c'est pas l'ensemble de la population, de la société, ne se saisit pas de ces sujets-là. Mais par contre, quant à Parcoursup, la mobilisation, elle a commencé... avant même la couverture médiatique, et ça s'est fait de façon assez ponctuelle dans plusieurs universités, bon, qui sont aussi en contact bien sûr, mais ça a amené aussi à la couverture médiatique. Je pense que ça dépend des sujets.
Bah justement, en parlant de la couverture médiatique, on ne nous a pas du tout parlé justement du journalisme et de la création possible d'un conseil pour contrôler les informations. On en avait discuté aussi dans une autre émission, et on n'en a pas du tout parlé, alors que là, ça touche totalement à de quoi on parle dans les médias et comment on en parle.
Oui, puisqu'on a vu pas mal en faisant ce petit micro-trottoir, c'est qu'il y a beaucoup d'infos, en fait, à la fois ce dont on a parlé il y a deux semaines, donc les infos qui ont marqué les gens l'année dernière, et les infos là qui seront peut-être traitées par les médias dans les prochaines semaines, c'est des choses qui sont déjà en cours depuis quelques mois, voire quelques années parfois, parce qu'on nous a parlé de l'affaire Sarkozy, Kadhafi, mais qui est toujours pas finie, c'est vrai. Donc en fait, les actus, c'est des choses qui prennent vraiment du temps et qui pourraient, comme on le fait là, être traitées régulièrement pour voir ce qui a évolué, en fait.
Et puis ça dépend aussi de l'agenda politique.
Absolument.
Ouais, l'agenda politique, et puis aussi la surenchère d'informations sur un même sujet, enfin là, notamment sur les affaires politiques. Il nous en a parlé suite à l'affaire Benalla aussi.
C'est-à-dire le fait qu'il y ait toujours des nouvelles choses qui se rajoutent à l'affaire?
Ouais, exactement. C'est pour ça aussi qu'elle dure dans le temps, cette affaire-là, et qu'on en entend tout parler, parce qu'il y a justement ces affaires-là qui s'ajoutent encore et encore et encore sur la politique, notamment.
Mais c'est des affaires, comme on le disait il y a deux semaines, c'est des actus, toujours des affaires, toujours de la politique, en fait. On parle difficilement d'autres choses sociales, comme voilà, l'environnement, sauf quand ça concerne l'écologie politique, ou quand il y a de l'action ou l'inaction du ministère de l'Environnement. Des choses comme ça qui pourraient très bien être d'actualité, mais on n'en parle que quand ça touche le politique, en fait.
Le politique revient sur la place publique.
Après, ça, c'est vraiment aussi propre aux médias mainstream. Y a d'autres médias aussi qui relatent des faits, mais bon, ils sont moins accessibles.
Et Juliette, je pense qu'il est temps de faire une dernière pause musicale.
Oui, nous allons pouvoir écouter Lily de Iron.